Mais bien aimé, nous allons maintenant, pendant le laps de temps qui nous est imparti, donc vous savez que dans le livre des Proverbes, où nous allons regarder au chapitre 20, Proverbe 20, verset 24, cette déclaration de Salomon, Proverbe 20, 24, où nous voyons Salomon qui mentionne ceci, Proverbe 20, verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Une question. Et à cette question-là, je peux tout de suite donner une réponse. Et la réponse que je peux donner à cette question, c'est que le prophète Ésaïe, dans le chapitre 55 de son livre, à partir de verset 6, peut révéler cet oracle divin, cherchez l'Éternel pendant encore qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes voies ne sont pas vos voies, et mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Donc, voilà une réponse qui pourrait être donnée comme réponse, comme réponse à la question qui a été posée. Et puis, Dieu va prendre, au travers l'oracle révélé à son serviteur Ésaïe, et la différence entre ses voix et nos voix, ses pensées et nos pensées, il va mettre cela à la distance du ciel à la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix diffèrent de vos voix, et mes pensées de vos pensées. Donc il y a mille lieues entre les pensées de Dieu et les pensées de l'homme. Et puis, toujours dans la même tranche de pensées, d'idées, Salomon va déclarer encore autre chose dans le Proverbe 16, verset 9. Livre des Proverbes, le chapitre 16, et au verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cela veut dire que si un homme suit un certain chemin, le chemin qu'il suivra ou qu'il suit n'est pas autre chose que le résultat de ses pensées. Mais il arrive quelquefois que nous pouvons avoir nos pensées, mais Dieu a la capacité dans sa souveraineté de diriger nos pas, non pas d'après nos pensées, ce que nous voulons, mais d'après sa volonté. D'où la réalité, frères et sœurs en Christ, que quelquefois nous nous retrouvons dirigés d'une manière que nous aurions tellement aimé éviter ou ne pas connaître. Mais Dieu le permet, parce qu'il est souverain sur la vie de chacun d'entre nous. Et puis, le prophète Jérémie, qui lui aussi était un homme dans la main de Dieu, un instrument que Dieu a utilisé, et ce malgré toutes les souffrances qu'il a endurées, quand Dieu le choisit au commencement de sa vocation, quand Dieu se révèle à lui, Dieu lui parle et Dieu lui dit, « Jérémie, voici, eh bien, avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu sortes du sein maternel, je t'avais déjà établi prophète des nations pour que tu bâtisses, pour que tu plantes et pour que tu ruines. » Et quand Jérémie entend la déclaration que lui fait l'Éternel, il a une réaction tout à fait humaine. Et il dit à l'Éternel, « Mais mon Dieu, je suis un enfant, je ne sais pas parler. » Et vous savez quelle réponse Dieu lui a donnée? « Ne dis pas que tu es un enfant. Parce que tu iras vers tous ceux vers qui je t'enverrai et tu diras tout ce que moi je t'ordonne de leur dire. » Et laissez-moi vous dire que Jérémie, dans sa vie de prophète, il a connu, excusez-moi du terme, c'est pas évangélique, des vertes et des pas mûres. Mais voici ce qu'il déclare. Hormis sa déclaration de souffrance dans les Lamentations, qui est accompagnée d'une parole d'espérance, puisqu'il dira dans les Lamentations de Jérémie, « Quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison. Et quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'âme abattue? Bien sûr. Il pense à sa misère, à l'absinthe et au poison. Et quand il s'en souvient, son âme est abattue au-dedans de lui. Mais avec tout ce qu'il vit, qu'il a vécu, il n'a jamais porté un jugement contre Dieu, mais le Saint-Esprit qui l'anime l'amène à cette déclaration. Voici cependant ce que je veux repasser en mon cœur. Et ce que je veux repasser en mon cœur, c'est ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Qu'est-ce qui va lui donner de l'espérance? Qu'est-ce qu'il veut repasser en son cœur? Malgré la misère, l'absinthe et le poison, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et frères et sœurs en Christ, savez-vous que ce matin nous sommes au bénéfice de cette parole-là? Nous avons nos combats, nous avons nos épreuves, nous avons nos luttes, nous avons tout ce à quoi on peut être confronté comme enfant de Dieu, l'hostilité du monde, avec sa sollicitude, avec des dehors, eh bien, de séduction et de tentation. Nous avons l'opposition du malin, avec ses pièges tendus pour, s'il était possible, nous arrêter sur le chemin de la persévérance. Nous avons le monde autour de nous qui nous entoure et qui voudrait, eh bien, sous toutes sortes de formes déguisées, eh bien, s'il était possible, nous sortir de la foi, sortir de la vie de Christ. Mais l'apôtre dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, on ne peut pas baisser les bras, ni se retirer en arrière, ni comme certains disent, moi j'ai décidé de prendre du recul. Non, il n'y a pas de recul. On a mis la main à la charrue et puis on va de l'avant avec Jésus-Christ. Amen. Voici ce que déclare le prophète Jérémie dans Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10, 23. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avons la foi pour sauver notre âme, que Dieu soit béni. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel. Il s'adresse à Dieu. Je le sais. Et cette déclaration est chargée aussi de certitude. Je le sais. Il a la connaissance, il le sait, mais ça lui donne de certitude. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. La raison, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Mais pasteur, vous vous trompez, le prophète s'est trompé. Non, la parole de Dieu, c'est la vérité. Si je dois aller chez le boucher, le charcutier, le boulanger, au supermarché, je n'ai qu'à laisser un laps de temps et après je vais faire mes courses. Ça, c'est humain, pour les choses de la terre. Mais dans les choses spirituelles, dans les choses de Dieu, quelquefois, ce n'est pas à nous de diriger nos pas. Mais Dieu, lui, a la capacité, dans sa souveraineté, de diriger nos pas comme ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il poursuit dans la vie de chacun d'entre nous un dessein qu'il s'est fixé. Oui. Et ce qui est convenable pour l'un ne l'est pas aux yeux de Dieu nécessairement pour l'autre. Mais ce qui est formidable, c'est que dans la bouche de l'apôtre Pierre, le Saint-Esprit prend soin de mentionner que ce n'est pas quelque chose d'étrange qui nous survient d'être dans la fournaise de l'épreuve. Fournaise, chaleur insupportable. Fournaise, chaleur intolérable. Fournaise, chaleur cependant nécessaire, d'après le plan de Dieu, parce que c'est dans l'épreuve, dans la fournaise, que la foi va se révéler lorsqu'elle est éprouvée. Et puis, frères et sœurs en Christ, comme nous avons abordé ce sujet mardi après-midi, nous avons vu comment, dans les Actes des Apôtres, alors que l'apôtre Paul est en mission, il arrive dans une ville de Philippe. Et il a vu dans cette ville de Philippe, suite à une vision que Dieu lui a donnée. Dans cette vision, c'est un Macédonien qui s'adresse à lui et qui lui dit, passe en Macédoine et secours-nous. Et l'apôtre nous dit que dès lors que cette vision lui a été donnée, lui et ses collaborateurs, eh bien, ils estimaient que Dieu leur avait ouvert une porte. Le Saint-Esprit au préalable les a empêchés d'être dirigés dans une contrée. Après une autre opposition, non pas de l'ennemi, mais du Saint-Esprit, d'aller ailleurs. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de canaliser les choses. Dieu dirige leur pas. Parce qu'il faut qu'ils se rendent en Macédoine. Et laissez-moi vous dire que non seulement il y aura de l'opposition, ils seront battus des verges, ils seront eh bien poursuivis par les magistrats, jusqu'à ce que le lieu où Dieu voulait qu'ils se trouvent, eh bien ils y sont, la prison. Comment ça Dieu permet qu'ils soient en prison? Oui, Dieu les conduit dans une prison. Pourquoi? Parce que le Macédonien en question, c'était lui qui était le gardien de la prison. Et on va les enfermer dans la prison supérieure. Et dans cette prison, non seulement ils sont enfermés, mais les voici qu'ils ont les fers aux pieds. Mais quand c'est Dieu qui dirige vos pas, la prison n'est pas un problème. Les fers aux pieds n'est pas un problème. Pourquoi? Passe en Macédoine, secours-nous. Et le Saint-Esprit a déjà préparé ce qu'il faut, de telle manière que même dans la prison, les voici qui font de cette prison, eh bien, un lieu de chorale où les prisonniers les entendent chanter les louanges de Dieu. Ils prient et ils chantent les louanges de Dieu. Et parce qu'ils sont dans le plan de Dieu, parce que Dieu a dirigé leurs pas de cette manière, alors à un moment donné, Dieu va faire en sorte qu'il y ait un grand tremblement de terre. Il va faire que les ceps aux pieds vont être rompus, toutes les portes vont être ouvertes, de telle manière que le geôlier, lorsqu'il voit ça, il tire son épée et il est prêt à se tuer, se suicider, parce qu'il sait les conséquences qui vont en découler de la ruine, maintenant, qui va être son partage par rapport au fait que les prisonniers se sont enfuis. Il pensait que les prisonniers se sont enfuis. Et voici que Paul lui dit, ne te fais pas de mal, nous sommes ici. Nous sommes tous ici. Alors voici qu'il demande de la lumière. Et lorsqu'il demande de la lumière, il pose la question, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà la question qui était au fond de son cœur, que Dieu voyait, mais Dieu avait besoin de deux instruments, Paul et Silas, pour pouvoir les diriger à Philippe. Oh, c'est vrai qu'ils sont allés près d'une rivière, dans une réunion de prière. Parce que le contexte était particulier. Il y avait une cohorte. C'est les Romains qui dirigeaient. Et lorsque vous regardez le récit, lorsqu'on les a menés devant les prêteurs, il a été dit d'eux, ces hommes, ce sont des Juifs qui ameutent la populace et qui nous parlent de coutumes qui ne nous est permis ni d'écouter, ni de recevoir et d'accepter. Et pourtant, Dieu les a conduits là. Un peu comme Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu permet qu'ils se retrouvent dans une fournaise ardente. Est-ce qu'ils ont commis un crime? Non. Ils sont simplement dans un plan que Dieu poursuit. Parce qu'il fallait que le roi dise, est-ce qu'on n'a pas jeté dans la fournaise 3 hommes? Et comment se fait-il que je vois un 4e et son aspect ressemble à l'aspect d'un des fils de Dieu? Où est-ce que Nabucodonosor avait déjà vu les fils de Dieu? Non, mes bien-aimés, c'est un principe divin qui fait que quand Dieu dirige les circonstances, il crée les circonstances et les dirige pour accomplir son dessein. Écoutez, vous connaissez Pharaon? Ah ouais. Pharaon, Dieu a dit, je vais endurcir son cœur. Et Pharaon servira à faire éclater ma gloire. Quand Dieu dirige, Il n'y a rien qui soit au-dessus de ses capacités. Même les grands. L'Éternel a le pouvoir d'incliner le cœur des grands, le cœur des rois, comme un courant d'eau dans sa main. Tout cela pour accomplir son dessein. Gloire à Dieu. Mais bien aimé, nous allons regarder un autre récit. Et je vais aller à l'essentiel. Est-ce que vous connaissez les disciples d'Emmaüs? Connaissez-vous les disciples d'Emmaüs? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous connaissez les disciples d'Emmaüs? Ah, j'aime bien que vous me répondiez quand je pose une question. Et là, je suis pas content de la réponse. Connaissez-vous les disciples d'Emmaüs? Voilà, oui, pasteur. Alors, regardez avec moi les disciples d'Emmaüs dans Luc 24. Et nous allons nous arrêter sur quelques points concernant le récit et surtout voir comment la main de Dieu est active ce jour-là. Luc 24, au verset, à partir du verset, je vous donne la référence, verset 13, Luc 24, 13. Nous lisons, et voici ce même jour. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé, et nous pouvons dire déjà là, amen. Première question qui nécessite que nous puissions nous y arrêter, c'est ce que nous venons de lire au verset 13. Ce même jour, pas la peine que je vous pose la question quel était ce jour, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Jour de la résurrection de Jésus, accompagné d'un ensemble de controverses, de questionnements, d'incompréhension, de doute, parmi la foule? Non, parmi les disciples de Jésus. Lorsque les femmes sont allées au sépulcre, et qu'elles ont vu que, eh bien, le Seigneur n'était plus là, les anges sont venus leur dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Et lorsque les femmes sont allées dire ça aux onze, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont dit amen, alléluia. Non, pas du tout. La déclaration des femmes leur parut comme des rêveries. Controverses. Pourtant, dans Matthieu 20 et dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, verset 33, ne cherchez pas. Le Seigneur avait pris soin de leur expliquer. Voici, nous montons à Jérusalem, et voici ce qui va advenir au Fils de l'homme. Il va être arrêté, battu des vèches, etc. On le crucifiera, mais trois jours après, il va ressusciter. Jésus avait averti les onze. Et les choses se sont passées comme Jésus l'avait dit. Mais les femmes qui ont déclaré cela, la Bible nous dit, il prit ses discours, Luc 24, verset 11, il prit ses discours pour des rêveries, et il ne crut point ses femmes. C'est quand même quelque chose. Pourtant, j'avais entendu Jésus leur dire. Après, la suite du récit nous montre que, dans le contexte particulier, le verset 16 nous montre ceci, il se dirigeait vers Jérusalem, disciple d'Emmaüs, et la Bible nous donne un détail, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Alors, je me suis permis de regarder un petit peu ce que représentait à l'époque 60 stades. Et j'ai vu que le stade, il y avait deux sortes de stades. il y avait le stade dit olympique, qui valait à peu près 192 mètres, mais il y avait aussi le stade commun, utilisé dans le monde, la populace, qui valait aux alentours de 177 mètres. Alors j'ai essayé de faire un mixte des deux pour trouver un équilibre, et j'ai vu qu'environ 60 stades, pour représenter à peu près 11 km 500, presque 12. Donc ils avaient quand même le temps de discuter en chemin. 11 km à marcher, on a quand même le temps de parler de tout ce qui se passe, tout ce qui est fait, l'incompréhension, on a le temps de discuter, de réfléchir, de partager. Et c'est dans ce contexte-là que nous lisons, frères et sœurs en Christ, en cheminant, verset 16, même verset 15. « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. » Et vous remarquez qu'ils n'ont pas posé la question « Qui êtes-vous, monsieur ?» Non, ils n'ont pas posé de question. Pourquoi? C'est ce qui est révélé au verset 16. Leurs yeux étaient... Ah, étaient-ils aveugles? Bien. Avaient-ils besoin de faire un saut chez l'ophtalmo? Pas du tout. Leurs yeux étaient en bon état sur le plan physique. Mais là, nous discernons une action de Dieu. Une action de Dieu qui fait que ils sont empêchés. Leurs yeux sont empêchés de reconnaître celui dont ils étaient les disciples. Ils étaient bien disciples de Jésus-Christ. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, Dieu en action permet que leurs yeux ne reconnaissent pas Jésus. Mais quelquefois, mes bien-aimés, quand Dieu agit, il fait des choses qui sont quelquefois impensables, inimaginables, mais réelles. Parce que ça fait partie de son plan. Alors, quel dessein Dieu poursuit-il? Alors, l'un d'eux, verset 18, nommé Clopas, on ne sait pas comment s'appelait l'autre, mais on sait qu'il y a un qui s'appelait Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? » Il fait l'étonnant. « Quoi leur dit-il? » Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comme les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Oh, nous espérions, espérance déçue, pleine des illusions. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Oh, il est vrai. Des illusions à la mesure du doute qui s'est emparé d'eux. Oh, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, étonnement accompagnant la désillusion, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Pourquoi? Parce que Dieu est en train d'agir pour les amener à la leçon absolument indispensable et qui désormais sera la règle de base de leur existence. Comme nous ce matin. Quoi, pasteur gentil? Eh bien, regardez la suite. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, intelligence obscurcie, intelligence qui a besoin d'être éclairée, intelligence qui a besoin d'être exercer. Intelligence qui a besoin d'être renouvelée par le Saint-Esprit pour nous accorder avec la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Quand les prophètes parlaient, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Christ qui parlait par les prophètes. Et quand les prophètes parlaient, ils annonçaient les choses que Dieu, lui, dans sa souveraineté, avait arrêtées. Et qui allaient obligatoirement s'accomplir. D'après un dessein qui s'est fixé. Mais d'après aussi un calendrier et une horloge divine bien réglée. Que la main d'aucun homme ne peut bouger. Ce plan se déroulait. Et qu'est-ce qu'il leur dit, verset 26? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ce que j'avais dit, ce que Jésus avait annoncé comme fils de Dieu, comme le plus grand de tous les prophètes, c'est ce qui s'était passé. Il avait été crucifié, mais 3 jours après, il avait été ressuscité par le Père. Et regardez comment le Seigneur va agir. Verset 27. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Ah, mais oui, quand vous avez 11 kilomètres à parcourir, Jésus a le temps de vous enseigner. Hein? Jésus a pris tous les prophètes. Moïse, dans la loi. Mais il leur a expliqué tout ce qui le concerne. C'est extraordinaire. Jésus prend du temps pour expliquer les choses. Les hommes, ils vont tellement vite, ils parlent tellement, mais on comprend pratiquement rien. Mais quand c'est Jésus qui explique, non seulement on comprend, mais il se passe quelque chose que les yeux ne voient pas, qui est à l'intérieur. Ça veut dire que leur cœur qui était sans intelligence, leur esprit enténébré, au fur et à mesure que Jésus leur explique les choses, le brouillard se dissipe, leur intelligence s'ouvre, et en même temps, le cœur se... Regardez, le cœur se réchauffe. Vous voyez pas que le cœur se réchauffe, là? Le cœur se réchauffe. Le cœur se réchauffe jusqu'à ce que ça devienne bouillant. Ça veut dire que l'explication de l'Écriture, donnée par Jésus, ou donnée par le pasteur, avec l'onction du Saint-Esprit, ça allume un feu dans le cœur. Et ça dégage incompréhension, ça dégage doute, ça dégage une intelligence obscurcie. Ça nous fait comprendre exactement ce que Dieu veut que nous comprenions. Donc nous voyons la valeur de l'Écriture. Jésus aurait bien pu, frères et sœurs en Christ. L'on dit, mais écoutez quand même, Jésus de Nazareth, c'est moi. C'est vrai, j'étais mort, comme je vous avais dit, mais je suis ressuscité. Non. Leurs yeux étaient empêchés. Donc Jésus a poursuivi un dessein pour leur montrer que désormais, vous allez devoir marcher non pas par la vue, mais par la foi. Ah oui. Quel principe pour nous ce matin? Nous marchons par là? Par la foi. Et non par la vue. Et ma foi, pour être active, a besoin des promesses de? Des promesses de? Dites-moi l'Écriture. Des promesses de l'Écriture. Car ce sont les promesses de l'Écriture qui rendent ma foi active et vivante. Ma foi s'empare des promesses de l'Écriture. Et quand le Saint-Esprit voit que je suis attaché, ou quand le Saint-Esprit m'a attaché aux promesses de l'Écriture, vous savez ce qu'il fait? Il prend les promesses de l'Écriture, il les fait rentrer dans mon cœur. D'une manière que, frère et sœur en Christ, j'acquiers progressivement, sur la base de l'Écriture, une ossature, un fondement, un centre de gravité, de telle manière que je suis au rang de ceux mais qu'on ne peut pas facilement ébranler. Parce que l'Écriture ne souffre d'aucun compromis. C'est ce que Jésus a voulu leur faire comprendre. En commençant par Moïse
Et tous les prophètes leur expliquaient dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village, verset 28, où il allait, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sous son déclin, et il entra pour rester avec eux. » Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Fixons nos yeux sur Jésus. Regardons le faire. Il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Et cette action de Jésus va faire en sorte que leurs yeux qui étaient empêchés, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais aussitôt qu'ils le reconnaissent, il disparaît. Ça veut dire que désormais, vous n'avez plus besoin de me voir. Pourquoi? Le témoignage de ma résurrection étant conforme à l'Écriture, vous n'avez plus besoin de me voir maintenant. Eh bien, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il était mort, mais qu'il est ressuscité. Je crois qu'il est vivant au siècle des siècles. Je crois qu'il est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour moi. Mais je crois un jour aussi qu'il reviendra me chercher afin que je parte à la résurrection qu'il m'a promis. Résurrection pour avoir la vie éternelle. Que son nom soit. Alléluia. Il leur expliquait les choses de telle manière que chemin faisant, leur cœur attristé s'est réchauffé. Lorsqu'ils rompent le pain, leurs yeux qui étaient empêchés s'ouvrent et le Seigneur disparaît devant eux. Ce matin, je n'ai pas besoin de voir Jésus-Christ physiquement, mais le Saint-Esprit me le montre, assis sur le trône de la grâce. Il me le montre couronné de gloire et d'honneur. Il me le montre ainsi, suite à la prière du sacerdoce qu'il a adressée à son Père, disant, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Maintenant, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. Alors maintenant, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Et ce matin, mes bien-aimés, nous sommes ce que nous sommes avec la grâce de Dieu. Mais nous sommes disciples de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dira plus tard, vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Est-ce que Dieu est bon pour nous ce matin? Est-ce qu'il est grand dans nos cœurs? Est-ce que Jésus-Christ est au milieu de nous? Il est. Alors, nous allons courber nos têtes et nous allons lui adresser les louanges et notre reconnaissance.